Mais dis-moi, nous semble-t-il que le vrai gouvernement se trouve parmi ceux que nous venons de définir par ses caractères? Un seul homme, un petit nombre, la multitude, la richesse ou la pauvreté, la force ou le libre consentement, l'usage de lois écrites ou l'absence de lois? Qu'est-ce qui s'y oppose? Suis-moi par ici pour y voir plus clair. Par où? Nous tiendrons-nous à ce que nous avons dit précédemment ou nous en écarterons-nous? De quoi parles-tu? Nous avons dit que le gouvernement royal est une science, je crois. Oui? Non pas seulement une science en général, mais nous avons distingué entre toutes les autres une science du jugement et une science du commandement. Oui? Et dans la science du commandement, deux sciences particulières, dont l'une s'exerce sur les choses inanimées, l'autre sur les animaux. Et divisant sans cesse de cette manière, nous nous sommes avancés jusqu'ici, sans oublier notre science, mais aussi sans pouvoir encore définir nettement ce qu'elle est. Tu as raison. Ne remarquerons-nous pas que ce n'est plus ici, dans le petit nombre ou le grand, dans le libre consentement ou la violence, dans la pauvreté ou la richesse, que nous devons chercher notre élément de définition, mais dans la présence d'une certaine science, si nous voulons procéder d'une manière conséquente à ce que nous avons établi dans le principe? C'est ce qui nous est impossible de ne pas faire. Il faut donc de toute nécessité examiner maintenant dans lequel de ces gouvernements se rencontre la science de commander aux hommes, la plus difficile ou peu s'en faut de toutes les sciences, et la plus importante à acquérir. C'est sur cette science que doit porter toute notre attention, afin de voir quels hommes nous devons distinguer du roi sage parmi ceux qui prétendent être des politiques et qui le persuadent à beaucoup d'autres, sans que pourtant il en soit rien. Oui, voilà ce qu'il nous faut faire comme nous l'avons décidé d'abord. Te semble-t-il que dans un état, la multitude soit capable d'acquérir cette science? Et comment le pourrait-elle? Mais dans une ville de 1000 hommes, est-il possible que 100 d'entre eux, ou même 50, l'acquièrent suffisamment? Ce serait alors le plus facile de tous les arts. Nous savons que sur 1000 hommes, il ne se trouverait jamais autant de joueurs d'échecs capables de se distinguer parmi ceux du reste de la Grèce. Tant s'en faut qu'il se trouvât autant de rois. Car, comme il a été dit précédemment, il faut nommer roi celui qui possède la science royale, qu'il règne d'ailleurs ou non. Tu me le rappelles à propos. Je crois que la conséquence de ceci est que le gouvernement véritable, s'il en existe de tel, ne doit être recherché que dans une personne ou deux, ou quelques-unes tout en plus. Évidemment, soit qu'il gouverne par la volonté générale ou malgré elle, selon des lois écrites ou sans loi, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, ses vrais politiques doivent être réputés, ainsi que nous en tombons d'accord, comme exerçant leur empire suivant un art. Il en est de même des médecins qui nous guérissent de notre consentement ou malgré nous, par le fer ou par le feu, ou en nous faisant souffrir toute autre espèce de douleur, qu'ils agissent ou non selon des règles écrites, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches. Nous ne les en nommons pourtant pas moins médecins, tant qu'ordonnant au nom de l'art, purgeant leurs malades ou les amaigrissant de quelque autre manière, ou même augmentant leur embonpoint pourvu que ce soit pour le bien du corps et pour le rendre meilleur de pire qu'il était, tant, dis-je, qu'ils guériront par leur remède les maux qu'ils ont entrepris de guérir. C'est ainsi, ce me semble, et seulement ainsi, que nous pouvons trouver la véritable définition de la médecine, et en général de toute science de commandement. Sans aucun doute. De même, parmi les gouvernements le plus accompli et le seul véritable doit être celui où l'on trouvera les chefs instruits dans la science politique, réellement et non pas seulement en apparence, soit qu'ils règnent par des lois ou sans lois, avec ou malgré la volonté générale, et qu'ils soient riches ou pauvres. Aucune de ces choses n'ajoute ni n'ôte rien à la perfection de la science. Très bien. Et soit qu'ils purgent l'État pour son bien, en mettant quelques hommes à mort ou en les bannissant, soit qu'ils l'amoindrissent en envoyant au dehors des colonies comme des essaims d'abeilles, ou qu'ils accroissent au contraire, en appelant dans son sein des hommes du dehors dont ils font des citoyens, pourvu qu'ils le conservent à l'aide de leur science et de la justice, et qu'ils le rendent meilleur, autant qu'il est en eux de pire qu'il était. C'est à ces traits seuls que nous devons reconnaître le gouvernement véritable. Quant à tout ce qu'on nomme du même nom, ce ne sont des gouvernements ni légitimement ni réellement. Ce sont des imitations du gouvernement véritable, celles qui sont sagement réglées, limites dans ce qu'il y a de meilleur, et les autres, dans ce qu'il y a de pire. Ce que tu viens de dire, étranger, m'a paru plein de justesse en tout. Or, un seul point, que l'on puisse gouverner sans loi, cela est dur à entendre. Tu ne m'as prévenu que d'un instant en m'interrogeant, Socrate. Car j'allais te faire cette question même. Si tu admets tout ce qui a été dit ou si tu restes en peine sur quelques points. Maintenant, Il est évident que notre objet est de nous expliquer sur la légitimité d'un gouvernement sans loi. Nécessairement, il est clair que la législation appartient jusqu'à un certain point à la science royale. Toutefois, le mieux serait que la force fût non pas aux lois, mais à un sage et habile roi. Comment cela, le sais-tu? Et toi, comment l'entends-tu? C'est que la loi ne pourra jamais embrasser à la fois complètement ce qu'il y a de mieux et de plus juste pour tous, et par conséquent ordonner ce qui est vraiment le meilleur. Car les dissemblances qui se trouvent entre les individus et entre les actions, et ce caractère des choses humaines qui fait qu'aucune d'elles ne reste pour ainsi dire un seul instant au repos, ne permet pas à un art quelconque d'établir en rien une règle simple et unique pour tout le monde et pour tous les temps. Ne pouvons-nous pas accorder cela? Comment s'y refuser? Nous voyons pourtant que c'est à peu près là ce que la loi exige, comme un homme opiniâtre et sans lumière qui ne permet pas que personne agisse en rien contre sa décision, ou fasse aucune question, quand bien même il surviendrait à quelqu'un quel qu'il est nouvel et préférable à ce que lui-même a établi. Il est vrai, la loi agit réellement envers chacun de nous comme tu viens de le dire. N'est-il donc pas impossible que ce qui est toujours en convienne à ce qui ne l'est jamais? J'en ai peur. Pourquoi donc est-il jamais nécessaire d'établir des lois, puisque la loi n'est pas ce qu'il y a de plus juste? Faut-il en chercher la raison? Certainement. Eh bien donc, n'existe-t-il pas chez vous, ainsi que dans les autres villes, grand nombre de gens qui s'exercent ensemble, soit à la course, soit à tout autre jeu pour en obtenir le prix? Oui, nous avons beaucoup de ces exercices. Voyons, repassons dans notre mémoire les commandements de ceux qui, dans ces sortes de gouvernements, dirigent les exercices suivant les règles de l'art. Comment? Ils pensent qu'il n'est pas possible de s'occuper de chacun en particulier et de prescrire à chaque individu ce qui lui convient, mais qu'il faut prendre les choses plus en masse et commander le plus souvent au plus grand nombre à la fois ce qui est utile au corps. Très bien, c'est pourquoi ils prescrivent à toute cette foule les mêmes travaux. Ils veulent qu'elles partent ensemble et qu'elles s'arrêtent ensemble à la course, à la lutte et dans tous les autres exercices du corps. Cela est vrai. Croyons donc que le législateur à son tour, qui doit imposer au troupeau d'hommes ses décisions sur le juste et sur le rapport mutuel, ne sera jamais capable en commandant à la foule entière de prescrire à chacun en particulier précisément ce qui lui convient. Il y a apparence, mais ce qui convient au plus grand nombre et la plupart du temps, c'est là, ce me semble, ce qu'il imposera pour loi aux individus pris en masse, que ces lois soient écrites ou qu'elles ne soient que des coutumes non écrites venues des ancêtres. Bien. Oui, bien en réalité. Comment en effet un homme pourra-t-il jamais être capable de prescrire exactement à chaque individu ce qui lui convient, comme s'il était toute sa vie assis à ses côtés? Certes, si l'un de ceux qui ont reçu en partage la véritable science royale avait cette faculté, je ne crois pas qu'il fût jamais tenté de se mettre les entraves en portant ces lois écrites dont nous parlons. C'est la conséquence étrangère de ce que nous venons de dire. Mais encore plus, ô le meilleur des hommes de ce que nous allons dire. Quoi donc? Le voici. Ne serons-nous pas d'avis qu'un médecin ou un maître de gymnase sur le point de voyager et de s'éloigner de ceux à qui il donne ses soins, pour un temps assez long à ce qu'il pense, se déterminera, s'il soupçonne que ses élèves ou ses malades ne se souviendront pas de ses prescriptions, à les leur laisser par écrit? Ou comment s'y prendra-t-il? Comme tu le dis. Mais quoi? Si le médecin revient après avoir été moins longtemps absent qu'il n'avait prévu, ne se décidera-t-il pas, malgré les choses qu'il avait écrites, à en ordonner d'autres? S'il s'en présente qu'il soit meilleur pour le malade, par suite des vents ou de tout autre changement de température survenu contre son attente dans le cours ordinaire des saisons? Ou persistera-t-il à penser que personne ne doit s'écarter de ce qu'il avait prescrit d'abord, ni lui-même en ordonnant autre chose, ni le malade en agissant contre ce qui est écrit, comme si cela seul était sain et médical, et que tout autre régime fût nuisible et contraire à l'art? Si pareille chose arrivait dans une science ou dans un art véritable, l'effet de semblable ordonnance ne serait pas nécessairement de faire rire aux éclats? Nécessairement. Et celui qui a porté par écrit ses décisions sur le juste et l'injuste, le beau et le laid, le bien et le mal, ou qui, sans les écrire, les a imposés aux troupeaux des hommes que leurs pasteurs gouvernent dans chaque état, d'après les lois qui ont été tracées? Si, dis-je, celui-là même qui les a rédigés avec art, ou quelque autre semblable à lui, se représente un jour, lui sera-t-il interdit d'en établir d'autres, contraires à celle-là? Ou bien une défense de cette espèce ne paraîtrait-elle pas aussi ridicule que celle dont nous venons de parler? Sans doute. Sais-tu quel langage on tient le plus souvent à ce sujet? Non. Cela ne me vient pas à l'esprit en ce moment. C'est un langage très spécieux. On dit que si quelqu'un sait des lois meilleures que celles des législateurs précédents, Il doit les donner à sa patrie pourvu qu'il persuade chaque citoyen et à cette seule condition. Quoi donc, cela n'est-il pas bien pensé? Peut-être, mais si quelqu'un, sans agir par voie de persuasion, impose de force ce qui est mieux, comment se nommera une pareille violence? Pas encore cependant. Considérons d'abord ce dont nous parlions tout à l'heure. Que veux-tu dire ?